Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Sciences Publiques. Comme toujours, vos réactions sont vivement attendues sur le site de Sciences Publiques au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Les métiers d'art sont-ils compatibles avec l'innovation technique ? Les métiers d'art sont plus souvent associés à la tradition, à la restauration d'objets ou d'édifices du patrimoine en conservant les techniques ancestrales qu'à l'introduction de nouvelles technologies. Pourtant, les journées européennes des métiers d'art qui se sont tenues du 27 au 29 mars avaient pour thème cette année l'innovation, de quoi attirer notre curiosité. D'autant qu'une exposition intitulée « Mutation » est présentée au Musée des Arts Décoratifs à Paris jusqu'au 5 juillet 2015 et qu'elle porte également sur la relation entre patrimoine et innovation. Cette exposition est particulièrement originale puisqu'elle est composée autour de la création d'objets nouveaux inspirés par des œuvres anciennes provenant des collections du Musée des Arts Décoratifs. Il s'agit ainsi pour 8 artistes et artisans de revisiter le passé avec des techniques et un regard d'aujourd'hui. Les objectifs d'une telle démarche sont ambitieux, illustrer la filiation entre objets d'art anciens et contemporains, symboliser l'évolution des métiers d'art, incarner la recherche dans l'histoire pour bâtir les bases d'un avenir possible pour ces métiers et enfin transfigurer le savoir-faire, rien de moins. La pierre, la terre, le bois, le verre, le cuir, le papier, le métal et le textile sont ainsi remis sur l'établi afin d'engendrer une nouvelle vision d'objets anciens tels qu'un siège en bois sculpté du 19e siècle, un étui à mantilles, un fragment de soie et de taffetas du 18e, un papier peint en tontis et une paire de vases Médicis en opale soufflée et bronze ciselé. La simple description de telles œuvres nous plonge dans la magie éternelle des métiers d'art et nous invite également à nous interroger sur leur avenir dans la société actuelle qui privilégie souvent la modernité, voire l'avant-gardisme. Comment concilier préservation du patrimoine et innovation technologique ? Comment les nouveaux matériaux et les nouvelles technologies peuvent-elles nourrir les spécialistes des métiers d'art ? Quel lien existe entre restauration d'œuvres anciennes et création d'œuvres contemporaines ? Quel avenir pour les artisans et les artistes des métiers d'art dans la société actuelle ? Quel lien, par exemple, peuvent-ils entretenir avec l'industrie ? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui en direct depuis la Maison de la Radio Nicolas Rizot, qui est responsable du développement de l'Institut National des Métiers d'Art, Éric-Sébastien Forlagor, c'est commissaire de l'exposition Mutation, Stephen Richard est ferronnier d'art. Et je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.fr. Éric-Sébastien Forlagor, bonjour.
Bonjour Michel.
Comment est née cette idée de l'exposition Mutation dont vous êtes le commissaire ?
L'idée de cette exposition est née d'un dialogue, comme bien souvent dans le cas des métiers d'art, un dialogue organisé avec l'Institut National des Métiers d'Art et le Musée des Arts Décoratifs à Paris, avec le souhait d'incarner, d'illustrer à travers une exposition les évolutions actuelles, les mutations du secteur des métiers d'art, puisqu'ils connaissent aujourd'hui un vif mouvement de grandes transformations, l'appropriation des nouvelles technologies, une création beaucoup plus contemporaine. Un regain d'intérêt aussi pour la pratique de ces métiers par les jeunes, des moins jeunes, des gens en reconversion professionnelle. Et donc, nous avons souhaité illustrer ce mouvement qui a connu une période à peu près similaire à la fin du 19e siècle.
Donc, une exposition particulière, puisqu'il ne s'agit pas simplement de montrer des objets, mais d'exposer des créations.
Tout à fait. Le principe de l'exposition est de créer une passerelle entre l'histoire et l'avenir, le futur. La baseline, le sous-titre de cette exposition est « Quand les objets d'art d'hier inspirent ceux du futur ». Donc, nous avons souhaité mener un travail qu'on appelle d'archéologie prospective, c'est-à-dire d'aller chercher dans l'histoire les fondamentaux d'une innovation ou tout simplement d'une invention. Donc, nous avons proposé à des collectifs de créateurs, 21 au total, qu'ils soient artisans, plasticiens, designers, ou même parfois qu'ils cumulent ces fonctions-là, de réinterpréter des objets que nous avons choisis dans les collections du musée, qui souvent ne sont pas présentés au public, dont le fameux ANAP de Lucien Falis, qui a introduit l'exposition, de les réinterpréter. C'est-à-dire que ces objets sont les supports, à la fois évidemment de matériaux, mais de techniques, de savoir-faire, que nous leur avons demandé de réinterpréter, soit avec des moyens contemporains, soit de les revisiter à travers le seul biais de la création.
Alors, on va revenir sur ce lien, ce pont que vous avez créé. Nicolas Rizzo, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes responsable du développement de l'Institut National des Métiers d'Art et qui sont les organisateurs de ces journées européennes des métiers d'art. Comment vous les définiriez un petit peu pour que... Maintenant, bon, elles sont passées, on les a ratées puisque l'émission a dû être décalée pour, en raison de la grève. Et elles ont eu lieu donc fin mars. Quel est l'objet de cette manifestation en réalité ?
Alors merci de nous inviter d'ailleurs, d'abord merci. L'objet c'est, oui, l'Institut National des Métiers d'Art, c'est l'opérateur de l'État, hein, qui est dédié au développement et à la promotion des métiers d'art, dans leur globalité, dans leur intérêt général, dans leur transversalité. Donc sous tutelle de trois ministères, il faut le dire, le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère chargé de l'Artisanat et le ministère de l'Éducation nationale. Les journées européennes des métiers d'art, on les a bâties il y a presque 10 ans. C'est la première manifestation de grande ampleur internationale dédiée à ce secteur. Donc on était à la 9e édition le 27, 28, 29 mars dernier. Il y a eu plus d'1 million de visiteurs avec 26 régions françaises, 14 pays européens. Donc ça prend une ampleur considérable d'année en année. Et c'est la fête d'abord populaire des métiers d'art. L'idée, c'est de reconnecter un peu la société avec des valeurs, avec des acteurs, avec des productions et des services de proximité qui sont tout près d'eux, mais qui ne sont pas forcément toujours visibles. Hein. Les métiers d'art sont aussi les métiers du luxe invisible, d'un luxe invisible, qu'il s'agit donc d'accompagner et de reconsidérer et de revaloriser. Donc les Journées européennes des métiers d'art, le premier objectif, c'est de les reconnecter à la société, aux gens, et donc d'ouvrir les ateliers, les centres de formation, d'organiser des expositions dédiées. Et l'exposition Mutation qui était organisée le 26 mars avec le commissariat d'Éric Sébastien Forlagors, en partenariat, donc coproduite par l'INMA et les arts décoratifs, et c'est pas neutre, et avec le soutien de la manufacture horlogère Vacheron Constantin, qui est la plus vieille manufacture horlogère au monde. C'est pas neutre, les arts décoratifs, parce que c'est finalement de là que tout est parti. Enfin, le concept même de métier d'art a été finalement développé à partir de la synthèse des arts mécaniques et des arts libéraux qu'incarnaient les arts décoratifs, en quelque sorte. On y reviendra tout à l'heure, puisque avec ce fameux ANAP qui a été... qui a cristallisé finalement le concept même de métier d'art.
Effectivement, on va y revenir. Stephen Richard, bonsoir, bonjour plutôt.
Bonjour.
Vous êtes ferronnier d'art, alors le nom lui-même de votre métier semble faire partie de l'histoire plutôt que de la réalité d'aujourd'hui. Comment pourriez-vous le décrire déjà ?
Alors, je pense que c'est un métier qui a aussi énormément évolué. Hein. Ferronnier d'art évoque tout de suite une image d'Épinal, du forgeron dans son atelier noir de suie et avec son feu au charbon rougeoyant, éclairant de sa lueur. Non, tout ceci a bien évolué. Alors bien sûr, la forge est toujours là, mais je définirais aujourd'hui davantage notre profession comme un travail artistique des métaux, puisque en intervenant souvent dans des environnements intérieurs, de décoration d'intérieur, nous sommes poussés à répondre à des demandes extrêmement variées, du luminaire jusqu'au mobilier, en passant par des sols en métal ou tout agencement possible en métal. Et ça en utilisant des techniques variées et avec des métaux et des alliages qui le sont aussi.
Voilà, alors si je vous posais justement la question, quel est le point commun entre un escalier Louis XV du Qatar et un plancher d'un grand couturier comme Karl Lagerfeld, vous répondriez que c'est vous le point commun.
Oui, merci pour ce rapprochement. Non, je dirais que ce serait la passion du travail du métal et de trouver de nouvelles applications.
Alors, on reviendra sur la pratique quotidienne de votre travail, puisque c'est quelque chose qui paraît quand même difficile à imaginer. D'ailleurs, vous nous expliquerez un petit peu votre propre cheminement depuis votre atelier de Paris jusqu'à un atelier un peu plus éloigné de la capitale.
À Valenton,
justement pour des raisons aussi d'environnement et d'introduction de ces machines dont vous parliez.
Exactement.
Dans la ville voilà. D'aujourd'hui.
C'est exactement ça. Donc, pendant 10 ans, une activité exclusivement parisienne dans un atelier traditionnel, magnifique, verrière, une lumière superbe. Et la contrainte d'espace et d'environnement qui rendait impossible de passer dans une autre dimension, à savoir la dimension de l'innovation. C'est-à-dire qui nécessitait de travailler avec des machines ou des approches à tâtons, mais des approches plus structurées pour arriver à des résultats. Et ça, dans un espace de 100 mètres carrés, ça devenait impossible. Et du coup, en septembre l'année dernière...
Un marteau-pilon, quoi.
Un marteau-pilon qui avait 110 ans, qui marchait très très bien...
Un marteau-pilon, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui ne seraient pas familiers de l'instrument.
Le marteau-pilon sert à forger et à battre le métal chaud. Donc il allège le travail du forgeron. Mais si je souhaitais, l'exemple qui était donné, faire rentrer un laminoir pour pouvoir texturer mon métal, eh bien, il me fallait plus de place. Si je voulais faire des essais mettre quelqu'un à quasiment plein temps sur ces essais, là aussi, c'est un poste de travail supplémentaire, etc. etc. Donc, le déménagement était inévitable, je dirais.
On reviendra sur les motivations et puis surtout sur les possibilités qui s'ouvrent à vous avec un peu plus de place et un peu moins de contraintes peut-être environnementales. Éric-Sébastien Forlagorce, cet exemple représente sans doute une petite partie, mais peut-être révélateur de cette recherche des artisans d'art d'aujourd'hui de trouver dans les nouvelles technologies quelque chose, un lien. Et on peut penser que c'est difficile, puisque en même temps, ils sont les dépositaires de techniques ancestrales.
Alors, tout cela n'est absolument pas incompatible et je pense que Steven incarne toute une nouvelle génération d'artisans d'art, mais de manière générale, l'esprit des métiers d'art, quand vous parliez de cet escalier au Qatar ou le sol en métal du studio d'un grand couturier, leur principale préoccupation est de toujours répondre à une demande particulière, à du sur-mesure, avec parfois des extravagances complètement folles, et à eux de trouver toujours une solution. Et d'un point de vue structurel, un atelier d'art est toujours en capacité de trouver ces solutions-là. Ils n'ont pas un outil de type industriel à rentabiliser qui les enferme dans un process de rationalisation. Ils ont des outils qui sont parfois très traditionnels, qu'ils manient de manière très contemporaine, mais ils sont toujours à la recherche de combines, d'astuces qui en elles-mêmes constituent une innovation. Et ils intègrent de façon très rationnelle également des outils souvent contemporains, pour pouvoir répondre à ces demandes-là. Donc là, vous parliez d'un laminoir, mais je pense à un des artisans, ou quelques artisans que je connais par ailleurs, mais un des artisans qui aujourd'hui travaille sur l'exposition Mutation, un des créateurs, l'atelier Dauphard. Cet atelier restaure principalement des papiers peints de façon extrêmement traditionnelle, donc qui sont imprimés à la planche avec des motifs très anciens. Néanmoins, pour des process... on va dire, de rationalisation. C'est très important, la rationalisation aujourd'hui dans les métiers d'art, celle du temps et même des process en termes de coûts. Il va utiliser une fraiseuse numérique pour fabriquer les planches qui lui servent à imprimer. De même, il a développé un outil avec des lasers qui lui permettent d'ajuster rigoureusement sa planche pour imprimer de façon correcte le motif. Donc je ne crois pas que métier d'art et innovation soient incompatibles. Je crois même que l'innovation fait partie du cœur même des métiers d'art.
Nicolas Rizot, sur les journées européennes de façon plus large, au-delà de cette exposition Mutation, comment l'innovation a été illustrée pour les visiteurs très nombreux dont vous avez parlé ?
Oui, je voudrais rebondir effectivement en disant que l'exposition Mutation d'abord est une illustration de ce que sont les métiers d'art eux-mêmes, c'est-à-dire des territoires en mouvement, en mutation, d'innovation, certainement pas figées. Ce sont des métiers du futur, en fait, par définition, et ils sont innovants de façon même constitutionnelle, voire congénitale, et ils ont obligation d'innover. Et ils l'ont toujours fait de tout temps pour s'adapter, se réinventer et créer de nouveaux... se réinventer par eux-mêmes. Donc il y a une innovation de la matière, des savoir-faire, mutation des savoir-faire de la matière, mais du métier en lui-même, dans la manière de l'appréhender. Et donc, dans le cas des Journées européennes des métiers d'art, c'est par exemple des Fab Labs intégrés à un centre de formation un peu d'innovation en Lorraine, un Fab Lab sur le verre, Glass Fab Lab, qui a été mis en place avec des workshops en Ardèche, en région Rhône-Alpes. Donc il y a vraiment des supports et des applications concrètes dans des lieux physiques et cette manière de travailler nouvelle en collaboration, collectif, avec des outils numériques, est en train d'émerger de plus en plus.
Alors une Fab Lab, là que vous qualifiez d'ailleurs dans le dossier de éphémère, celle qui s'est déroulée donc en Ardèche, ça se traduit comment ?
C'est un endroit où on des gens, bon alors professionnels et amateurs, c'est quand même investi à la base par le mouvement des makers, qui sont des amateurs, mais au sens très noble, amateurs mais pointus quand même. Enfin, et donc un espace où on trouve des outils. Qu'on va partager, mutualiser des outils numériques, imprimantes 3D évidemment, fraiseuses numériques, découpes laser, dans lequel on va travailler de façon décloisonnante sur où on va réfléchir à de nouveaux systèmes, mais en travaillant vraiment même la matière. Donc il y a des Fab Labs, et puis là ce qu'on est en train d'imaginer avec l'INMA, c'est pourquoi pas créer un ou plusieurs craft labs, c'est-à-dire des fab labs qui soient vraiment dédiés à une approche transversale des métiers d'art, à partir de matériaux, ça peut être le verre, le bois, le textile, qui puissent servir d'un point de vue de la méthodologie et du projet à tous les métiers. Donc vraiment, l'idée, c'est la transdisciplinarité, pardon. Et on le voit, ce qu'on a insufflé et engagé depuis 2 ans, déjà l'an dernier au Palais de Tokyo. Cette année, on l'a recommencé avec des workshops éphémères. Mais dans l'idée, il y aurait de créer ces lieux moins éphémères, permanents, qui puissent... Parce que les métiers d'art en ont besoin. Le secteur des métiers d'art a manque de recherche. On est ici dans une émission de sciences publiques. Les métiers d'art, c'est de l'artisanat, c'est de la culture. C'est de l'industrie aussi, enfin, on est entre les deux. On part du très petit atelier jusqà l'industrie du luxe, en passant par la TPE, la PME, les entreprises du patrimoine vivant, des maîtres d'art qui sont les derniers trésors vivants français. Bref, c'est un secteur très complexe, hétérogène. Voilà, pardon.
Donc vous voulez créer ces lieux ?
Oui, l'idée c'est de créer un outil qui soit au service de l'innovation permanente, je dirais, et de la recherche fondamentale et appliquée, voilà, parce que c'est nécessaire dans ce secteur. Un secteur sans recherche et dégénère. Donc l'idée, c'est de régénérer les savoir-faire, régénérer le secteur et les métiers.
Alors l'exemple qui est utilisé par l'exposition Mutation, c'est le fameux ANAP dont Éric-Sébastien Forlagorce va nous expliquer le sens déjà, la nature et la symbolique peut-être.
La symbolique est extrêmement forte et qui en fait rejoint exactement ce dont on vient de parler, à savoir ce rapport à l'innovation et aux sciences. Le ANAP, d'abord, le terme en lui-même est un mot d'origine germanique qui désigne en fait un gobelet, une coupe, ce qu'on appelle donc une coupe de corporation, un objet rituel de corporation, c'est-à-dire un objet qui a été fabriqué pour un groupement d'artisans autour duquel ils se réunissent pendant des grandes cérémonies. Donc ce ANAP de Lucien Falise, qui s'intitule lui-même « Les métiers d'art », avait été une commande en fait des fondateurs de l'Union centrale des arts décoratifs, l'ancêtre du musée des arts décoratifs, pour incarner leur idéal commun. Et cet idéal, donc, autour des arts décoratifs, s'est naturellement plongé sur les métiers d'art, d'où le nom de ce gobelet en or, donc qui est un gobelet en or, avec donc de nombreux décors en émail de basse-taille, qui est un objet qui est une performance technique en lui-même, puisqu'il a nécessité près de 40 cuissons, si ma mémoire est bonne. Donc cet objet mesure à peu près 30 cm de haut. Il est entièrement recouvert d'un décor de feuilles de vigne, puisqu'il était un gobelet à boire du vin, pour le président de l'Union centrale des arts décoratifs lors de ces grandes cérémonies. Et il est orné de deux détails qui, pour moi, sont extrêmement importants. Le premier, qui est une frise, qui avait été dessinée par Luc-Olivier Merson, donc un artiste peintre de l'époque, et qui incarne d'ailleurs objet en lui-même ce principe de collaboration, de décloisonnement et d'échange autour des métiers d'art, puisque pour le fabriquer, il a fallu un orfèvre, un graveur, un émailleur et ce fameux artiste. Donc cette frise représente en fait des artisans au travail et surtout opère une classification des métiers, non pas par nom de métier, mais par matériaux employés dans ces métiers. Donc ceux qui sont au nombre de 8 et que vous décriviez tout à l'heure, donc à savoir la pierre, la terre, le bois, le verre, le cuir, le métal, le textile et le papier. Et surtout, cet objet est surmonté d'un couvercle, un couvercle extrêmement symbolique pour les métiers d'art et le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il définit les métiers d'art comme un triptyque qui s'organise autour de trois termes, la notion de métier, celle d'art et surtout de science. Et ces trois mots se rejoignent symboliquement autour du symbole des arts décoratifs qui est la feuille de chêne.
France Culture, Science publique, Michel Albert-Gonti.
Je vous rappelle que nous débattons aujourd'hui autour de la question « Les métiers d'art sont-ils compatibles avec l'innovation technique ?» avec nos invités Nicolas Rizeau, responsable du développement à l'Institut national des métiers d'art, Éric-Sébastien Forlagorce, commissaire de l'exposition « Mutation » et Stephen Richard, ferronnier d'art. Alors juste un complément peut-être de la part d'Éric-Sébastien Forlagorce, puisqu'il nous a expliqué avec beaucoup de talent et de la richesse de cet objet qui, quand on le voit...
Et je n'en ai que peu de dire.
Oui, et encore ce fut un résumé. Ce qui est aussi impressionnant, c'est de voir la version contemporaine de cette ANAP.
Exactement, on parlait d'art, science et métier. Le collectif qui a été mis en place est chargé de réinterpréter cet objet, donc de créer un nouvel objet de corporation pour les métiers du 21e siècle, est composé de Stéphane Perrault, qui est plasticien, et de Nicolas Mariscal, qui est orfèvre. Et pour la petite anecdote, Stéphane Perrault est un artiste qui s'intéresse non seulement à l'histoire de l'art, mais à l'histoire des sciences, et qui conjugue très habilement dans ses créations ces deux histoires pour créer un véritable langage. Ce que je lui ai demandé de faire avec Nicolas Mariscal pour créer cette nouvelle pièce, donc cet objet qui incarne l'esprit des métiers du 21e siècle, qui s'appelle « Corps de métier ». Pourquoi « Corps de métier » ? Quand on voit cet objet, déjà, il prend une apparence, une esthétique en tout cas extrêmement contemporaine. On pourrait croire qu'il s'agit d'un objet, un outil presque scientifique, un objet sorti d'un laboratoire ou même d'une industrie, ni plus ni moins. Et surtout, il utilise des lasers, donc ce qui plonge réellement et visuellement les métiers d'art dans cette notion de modernité, presque de futurisme ou de science-fiction. Je vous le disais, il prend l'apparence d'un objet, on va dire, de type industriel. Néanmoins, il a été entièrement fabriqué à la main par un artisan d'art, par cet orfèvre. Il ramène également une dimension extrêmement scientifique dans ses métiers, à travers sa forme, puisque les matériaux qui étaient représentés de façon figurative sur le hanap de Lucien Falise sont incarnés par eux-mêmes sur cette pièce, puisqu'en fait, il s'agit d'une plaque de laiton repercé, sur laquelle sont disposées de façon verticale des plaquettes de type microscopique et qui enferment des matériaux, ces fameux matériaux représentés sur le hanap, traités de façon extrêmement fine pour pouvoir laisser passer cette lumière qui émane du laser et montrer toutes les propriétés physiques de la matière. C'est une façon de montrer aussi les métiers d'art, non plus seulement par la vision très traditionnelle que l'on a d'eux, qui est celle de l'atelier, celle de l'outil, mais simplement dans le rapport presque charnel qui existe entre l'artisan et la matière.
Là, on se rapproche plus d'ailleurs d'une forme d'installation visuellement que d'un objet parce que finalement, il ne ressemble pas à un objet usuel existant. C'est une création véritable.
Encore une fois, et c'est toute la confusion que souhaite aussi semer cette exposition, c'est un point d'honneur auquel je tiens particulièrement, c'est aussi de démontrer qu'on a une vision de l'artisanat d'art, soit qui est portée extrêmement sur l'art, soit sur la notion d'usage dans l'objet. Or, les métiers d'art produisent des objets, certes, d'usage, mais qui ont une forte valeur artistique. Et cet objet, malgré tout, même s'il n'a pas une fonction qui paraît être évidente comme celle du hanap, c'est-à-dire boire du vin, être un gobelet, reste malgré tout un objet qui a une fonction, qui est celle de réunir une corporation, ce qui est le cas dans cette exposition.
Nicolas Rizeau, vous vouliez réagir peut-être sur la nappe et sur sa symbolique ? Pas du tout.
Non, mais c'était confusion, mais aussi manifeste. Au-delà d'une exposition, d'une simple exposition, Il fallait un geste fort. Enfin, la volonté de l'INMA, c'était de travailler avec un commissaire d'abord talentueux, évidemment, mais qui partage une vision résolument contemporaine. Quitte à être un peu radical, je veux dire, on veut imprimer un nouveau message, mais c'est pas pipeau, hein, c'est avec un manifeste vraiment des savoir-faire, bien sûr. Il fallait rendre hommage au savoir-faire et des arts décoratifs, mais montrer les pré-codes du futur des métiers d'art, vers quoi on veut tendre, où on veut les amener. Et donc, il s'agissait de faire plus qu'une exposition, quoi, et de défendre un message même politique.
Eh bien, l'exemple de la nappe, et donc on a sur le site de Sciences Publiques une petite idée avec la juxtaposition de l'objet initial et de l'objet actuel, même si, vu les formats, ça ne donne pas une impression suffisante, je pense.
Mais le mieux étant d'aller voir l'exposition.
Le mieux, évidemment, est d'aller voir l'exposition. Donc ça permet déjà de voir la distance, quand même, entre les deux interprétations du même thème. Stéphane Richard, on a parlé, le mot est passé tout à l'heure, de recherche. Et vous, c'est justement une des préoccupations qui a peut-être été un peu à l'origine de votre déménagement et du changement un peu de décor de votre atelier.
Exactement. Et j'en profite pour préciser un petit peu ce que vous disiez précédemment. Je pense qu'on peut parler d'innovation ou de recherche au pluriel. Puisque il y a une innovation qui, chez l'artisan d'art, est tout à fait familière. C'est cette innovation souvent esthétique, voire un petit peu technique, qui se fait par tâtonnement, par petites touches et dans lesquelles il est tout à fait à l'aise.
Et des démarches un peu empiriques, en fait.
Plus empiriques, voilà, exactement. Et ça, je pense que c'est un tronc commun que nous partageons tous. La démarche qui consiste à avoir une approche plus rigoureuse pour une recherche technique, l'approche à tâtons est plus adapté. Là, on est obligé, et c'est vraiment cette obligation de déménagement qui nous a poussé dans cette direction, c'est qu'on est obligé de se structurer et d'aborder, de problématiser. Exactement. Voilà. Pouvoir énoncer un problème, une direction, et trouver enfin des solutions.
Est-ce qu'il y a un exemple qui illustre ?
Alors, l'exemple de la mise en texture du métal, c'est évident que quand on a été sollicité par Lagerfeld pour faire ce parquet Versailles en maillot texturé, on a répondu.
Maillot texturé, donc le maillot.
Maillot, c'est un alliage qui est présent, que les gens peuvent retrouver sur les pièces de 1 et 2 euros, qui est un alliage blanc. Lorsque nous avons été sollicités pour répondre à cette demande, là, on y a répondu. Alors ça a été faire face à un défi technique sur le moment qu'on a pu relever. Les clients ont été entièrement satisfaits, les défilés ont pu se faire dans les temps.
Et là, le défi, c'était quoi ?
Voilà, il fallait trouver une technique pour texturer 100 mètres carrés de métal. À la main, c'était plus possible. Les échantillons qu'on avait réalisés, qui ont été validés, et ce pourquoi on avait été choisi, et il fallait qu'on mette au point un outil.
Un changement d'échelle, en fait.
Un changement d'échelle, exactement. Et en réalisant cet outil, on a pu répondre, mais on a toujours été dans cette approche tâtonnante. À la sortie de ce chantier, ça a été pour moi une prise de conscience qu'il fallait absolument, dans ces situations, pouvoir se structurer. Et là, ça a été la porte d'entrée, ça a été l'Institut des métiers, qui m'a mis en contact avec le Centre francilien de l'innovation. Et à partir de là, rencontre avec le CM2T, qui est basé à Metz, et donc à côtoyer...
Le CM2T,
je ne pourrais pas vous donner le... mais c'est le nom de...
Alors, tout le monde
c'est le Crit Metal dans ce réseau.
Voilà, c'est un centre de recherche et d'innovation technologique, un truc comme ça.
Voilà, exactement. Et en réalité, dans ces démarches, ça a été l'occasion de décloisonner, puisque nous nous sommes mis à côtoyer des ingénieurs. Et ça se fait de manière tout à fait informelle. Hein. C'est à une terrasse de café, à discuter des problématiques, des méthodes que eux utilisent pour faire face à ce genre de situation. Et là, par une forme de porosité, on s'imprègne de ces approches. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on est en mesure de pouvoir répondre à des défis techniques beaucoup plus importants. Enfin, la troisième approche de cette innovation au pluriel, c'est l'intégration des nouvelles technologies dont vous avez parlé. Et c'est vrai que ça ne se fait pas forcément de manière aussi simple. Et il faut une démarche, une prise de conscience et la certitude qu'on ne va pas dénaturer son métier qu'en utilisant des machines numériques pour réaliser des tâches qui, somme toute, sont des tâches qui, avec une valeur ajoutée moindre. L'approche manuelle et les touches finales peuvent se faire en fin de process par l'artisan et ses compagnons.
Alors justement, là, on a l'impression quand même d'une frontière qui est difficilement définissable. L'artisan, c'est quelqu'un qui travaille à la main. Là, vous avez parlé tout
à l'heure.
Mais
là, je vous interromps, Michel.
Machine numérique, vous avez parlé. Oui.
Le problème, c'est justement la frontière. Il ne faut plus en parler de ces frontières. Il faut abattre
Exactement.
Les frontières.
Bien sûr.
Pour vous parler de transdisciplinarité, c'est vraiment ça qui crée l'innovation.
C'est pas
abattre
que dans
les frontières, faire mettre en connexion oui. des gens qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer. Et là, vous créez la situation pour l'innovation.
Et on crée de la vigueur hybride.
Nicolas Rizzo, oui. Et comment favoriser ça? Alors, on a l'exemple de Stéphane Richard là, qui a l'air d'avoir très bien fonctionné. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des passerelles entre, par exemple, l'industrie, la recherche industrielle,
mais par exemple,
peut-être l'université aussi, pourquoi pas, où se fait de la recherche, et des artisans
d'art. Vous avez quelqu'un qui était un maître verrier, enfin verrier, maître d'art, spécialisé en verre d'architecture, qui s'appelle Emmanuel Barrois, qui est au fin fond de l'Auvergne, à Brioude, en Haute-Loire. Il travaille avec les plus grands architectes du monde, Kengo Kuma récemment. Il travaille sur la notion de vigueur hybride, qui est donc un processus venu de l'agriculture, qu'il a, lui, appliqué au verre, aux matériaux verts. Alors, c'est quelqu'un qui est, évidemment, il est atypique, c'est une locomotive, c'est quelqu'un qui tire vers le haut, bien sûr, mais ça, voilà un exemple de quelqu'un qui est capable de parler avec un physicien, un biogénéticien, un industriel. Il crée du verre, un verre que l'industrie ne peut pas créer. C'est quand même assez incroyable et peut-être paradoxal, mais lui, il arrive à développer un verre, il mixe le verre avec d'autres matières, il crée un verre hybride. Et donc, il travaille par exemple sur la canopée du Forum des Halles. Alors ensuite, l'industrie rachète ses brevets. Lui, il prototype en fait, il est porteur d'une innovation que ne peut pas faire émerger l'industrie, parce qu'en plus, on n'est pas dans les mêmes temps. Donc là, on est dans le temps long de la recherche permanente, accidentelle aussi, empirique, mais permanente. On cherche sans cesse, puis on trouve à un moment. Et après, il faut effectivement trouver l'économie. Mais il y a une économie. En tout cas, l'innovation est clairement facteur de différenciation, donc de compétitivité, donc de développement économique. Alors, il faut des tripes, il faut du cœur, il faut du courage, mais c'est un sport de combat. Pour reprendre l'expression de Rudy Ricciotti sur l'architecture, je crois que l'artisanat et les métiers sont un sport de combat. Il faut une vision, il faut un œil, il faut une main, bien sûr, mais ce n'est pas qu'un savoir-faire, c'est un savoir-penser. Donc voilà, ce monsieur-là, il arrive à créer des verres complètement spéciaux. Le FRAC de Marseille, le Fonds Régional d'Art Contemporain Marseille, avec Kengo Kuma, c'est lui qui a créé 1700 panneaux de verre, 1700 panneaux, 4 millions de gouttelettes d'émail posées sur le verre, à la main, toutes. Voilà quoi, on est et donc avec un et donc il y a totalement la capacité de faire travailler les métiers d'art avec l'architecture,
la verrière
du FRAC de Marseille.
Mais également
c'est aussi alors il a créé une installation monumentale et spectaculaire dans le toit de la Fondation Vuitton aussi.
Voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire.
Mais allez, c'est pas le toit, c'est pas le verre de la Fondation, hein, c'est une œuvre intégrée, des panneaux de verre qui font un miroir, qui jouent avec de l'eau.
Alors cet exemple effectivement renvoie à ce que disait Stephen Richards sur la relation avec l'industrie, parce qu'on imagine que l'industrie doit avoir envie d'y trouver son compte. C'est-à-dire, c'est pas une simple... Il peut y avoir des relations humaines, j'espère en tout cas qu'il peut y en avoir. Mais il y a aussi forcément des moteurs qui sont plus d'intérêt partagé, mutuel. Comment vous ressentez-vous, par exemple, votre relation avec un industriel? Est-ce que vous pouvez échanger dans les deux sens?
Alors, jusqu'à présent, j'ai été contacté par une grande marque de voitures anglaise. Et pour l'instant, ça s'est fait à sens unique. C'est-à-dire que j'ai produit des échantillons, je n'ai pas eu vraiment de retour. Non, les échanges
là, la demande venait de l'industriel.
En ce qui me concerne?
Oui.
Oui, oui, tout à fait. Ils sont venus me voir et ils m'ont dit... je crois que l'industrie a compris que les métiers d'art, ils allaient pouvoir se renouveler et trouver des très, très bonnes idées et de l'innovation dans ce terreau. Donc... je pense que c'est pas un cas unique, qu'un industriel cherche comme ça et fraye dans cet environnement. Non, les échanges que j'ai pu avoir et qui étaient plus intéressants, c'est via le CM2T que je recite et qui lui est très bien implanté dans le tissu industriel et innovant et du coup favorise des rencontres de ce type. Donc là, je dirais que notre expérience de l'innovation, elle remonte à 2 ans et les choses sont en train de se construire. Mais c'est prometteur.
Éric-Sébastien Forlagorce, c'est les travaux que vous avez suscités avec cette exposition Mutation. Ont-ils aussi des répercussions potentielles vis-à-vis de l'industrie ou de création de relations entre les artistes, les artisans et des industriels qui pourraient se nourrir de leur travail? On sent qu'il y a une différence d'approche qui peut être très complémentaire d'une certaine façon. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, le temps n'est pas le même, les défis non plus auxquels les artisans sont confrontés ne sont pas les mêmes. Et donc une collaboration peut paraître fructueuse.
Elle peut effectivement paraître fructueuse. Je pense simplement que, enfin, pour rebondir un peu sur ce que disaient Nicolas et Steven, l'innovation c'est d'abord un état d'esprit. Et c'est ce que vraiment on a voulu dans cette exposition démontrer, et que cet état d'esprit ne peut être favorisé que par le biais des rencontres. Et l'art, de manière générale, a toujours eu un rapport extrêmement étroit avec les sciences, que ce soit dans les métiers d'art ou dans l'industrie. Donc je pense à de nombreuses aujourd'hui industries qui font appel à des artistes pour totalement leur faire repenser leur mode de fonctionnement. Je prends juste un exemple. Un jour, je me retrouve en atelier avec donc un collectif artistes-artisans. Et un des artisans, très, très ouvert d'esprit, encore une fois, dit « Seulement, on n'a pas l'habitude de faire comme ça. » Et l'artiste lui répond « Je suis artiste, je n'ai pas d'habitude. » Et donc, d'un seul coup, quelque chose s'est déclenché en disant « Mais effectivement, nous nous fixons des limites intellectuelles ou seulement techniques que parce que dans la tradition, nous nous fixons ces limites. »
Donc, le paradoxe, c'est que c'est l'artiste qui est quand même aussi le représentant de la tradition, qui lui est plus libre vis-à-vis, plus créatif que l'industriel qui est censé être à la pointe de l'innovation. Donc on peut penser que c'est un peu le monde
à l'envers. Alors je
ne
sais pas si on peut dire que l'industriel est toujours à la pointe de l'innovation ou que l'artiste incarne la tradition. Oui, il devrait l'être effectivement. Mais je crois que, après on va tomber dans des considérations d'ordre économique, mais les modèles en tout cas d'entreprises qui existent aujourd'hui et de type industriel ne leur permettent plus d'innover. D'un point de vue économique, il n'y a plus de budgets qui sont affectés à la recherche et au développement, ou très peu.
Il n'y a plus, mais
d'un point de vue comptable. Non, effectivement, je vous rejoins, c'est très inquiétant, mais d'un point de vue comptable, ce qui devrait être affecté à la recherche et à l'investissement ne l'est pas. Or, aujourd'hui, dans les métiers d'art, et ce qui favorise aussi l'émergence de cette innovation, c'est que le seul facteur qui joue, c'est le temps qu'ils veulent bien accorder à cela. Parce qu'ils ont cette pratique empirique et aussi, d'un point de vue structurel, je le redis encore une fois, veulent s'ouvrir et peuvent rencontrer. Donc vous parliez d'industrie, par rapport à des projets qui existent dans l'exposition, aujourd'hui on a utilisé d'ailleurs pour une œuvre un procédé de type industriel. Donc c'est nous qui sommes allés chercher quelque chose qui venait de l'industrie pour le mettre dans un objet d'art. Après, effectivement, j'imagine que d'un point de vue technique, on peut employer des dérivés dans l'industrie. Mais je voudrais revenir aussi sur autre chose, dans ce rapport qui existe entre l'industrie et les métiers d'art. Il n'est pas inopérant, il n'est pas inexistant. Encore une fois, c'est juste une envie de le susciter. Je pense à une céramiste, alors qui ne fait pas du tout partie de ce projet d'exposition, mais qui a développé un four pour un industriel. parce qu'elle avait cette compétence de le développer et que lui ne savait pas le faire. Et elle a simplement négocié la possibilité de pouvoir réutiliser ce four pour elle qui lui permet de sortir des créations qu'elle ne pourrait pas sortir avec un four traditionnel. Donc encore une fois, il s'agit juste d'une volonté de décloisonner et de coopérer.
France Culture, Science Publique, Michel Alberganti.
Nous débattons aujourd'hui autour de la question « Les métiers d'art sont-ils compatibles avec l'innovation technique ?» Avec nos invités, Nicolas Rizzo, responsable du développement de l'Institut national des métiers d'art, Éric-Sébastien Forlagorce, commissaire de l'exposition « Mutation » et Steven Richard, ferronnier d'art. Alors cette relation avec l'industrie, ce travail de recherche, ces échanges posent la question de l'avenir des métiers d'art. L'avenir des métiers d'art, sachant qu'aujourd'hui, on est dans une société où l'art et ces objets dont on a parlé depuis le début de l'émission ont cette apparence du luxe et de l'inaccessibilité. Ça reste quelque chose réservé à une catégorie particulière de la société qui a les moyens de s'offrir, voire d'approcher même ces objets. Bon, ben voilà, je vois plein de dénégations autour de moi, donc ça doit être entièrement faux.
Complètement.
Nicolas Rizzo, peut-être, cette image...
On est à France Culture, donc il faut pas déconnecter la main de l'esprit, évidemment. Vous savez, les métiers d'art reconnectent tout ça. Pas déconnecter la culture de l'économie. La culture, c'est aussi de l'économie. La culture générale, la recherche, la science, la poésie aussi, c'est tout ça. Les métiers d'art en ont besoin. On a une crise économique, évidemment, mais aussi une crise culturelle. Et c'est d'abord un problème d'éducation de la société et de culture, et donc d'ouverture. Alors, aux métiers d'art eux-mêmes d'être porteurs de ça, de ne pas adopter de posture... de repli identitaire ou qui pourrait être réactionnaire, qui leur serait vraiment fatal. Je crois que...
Trop élitiste ?
Non. Non.
Ou élitiste, tout simplement, à ramener l'objet d'art à sa dimension artistique.
C'est ça. Je veux dire, un artisan d'art, d'abord, c'est pas qu'un artisan, c'est un auteur aussi. C'est plus qu'un ouvrier, même le meilleur ouvrier de France. Je veux dire, il est aussi le professionnel des métiers d'art, c'est comme ça qu'il faut le dire, est à la fois artisan, artiste, il peut être auteur, interprète, au service d'eux, mais aussi auteur. Et donc, il n'y a pas qu'un savoir-faire, il y a un savoir-penser. Et même que la technique, d'ailleurs, n'est pas que de la technique, c'est de la pensée en action.
Steven Richard, vous vous reconnaissez dans ce portrait d'un faiseur de métiers d'art?
Oui, je dirais que pour répondre à votre question, c'est évident que les plus belles commandes, c'est bien souvent des gens qui ont de gros moyens pour se payer une réplique. Vous parliez d'une rampe Louis XV, bon, c'est vrai que ça peut être assez cher. Mais j'ai aussi des passionnés, des gens qui viennent voir un artisan d'art parce qu'ils veulent une bibliothèque en métal pour ranger des passionnés de livres anciens. Et bien, ils sont prêts à mettre un petit peu plus d'argent que ce qu'on... habituellement, on pense imaginer dépenser, et ça, je rejoins l'approche culturelle, c'est se dire que le beau, ça peut et peut être approché par tout le monde.
Alors le beau, voilà un autre mot peut-être qui est très symbolique de ces métiers et qui aujourd'hui est en concurrence avec une forme d'industrialisation de masse qui, elle, n'a pas forcément comme objectif
C'est pas opposé. Oui. On consomme les deux. On a un téléphone portable et puis on peut utiliser un... Enfin, je veux dire que...
Mais on a le choix entre une bibliothèque à monter soi-même, dont je ne citerai pas de marque, et celle que peut faire Steven Richard. C'est pas exactement la même chose.
Encore une fois, il faut savoir décloisonner. Enfin, il n'y a pas d'incompatibilité là-dedans. Et on parlait de ce côté élitiste. Alors, ce côté élitiste dans les métiers d'art, évidemment, on le voit parce que pour aussi faire rêver avec les métiers d'art, il faut qu'on en montre le plus beau, comme dans n'importe quel autre domaine. Néanmoins, les métiers d'art, ils sont au quotidien, ils sont près de chacun, pas seulement à Paris, pas seulement dans les métiers du luxe, de la haute couture. On peut très bien aller voir un ébéniste à côté de chez soi. Je pense à une jeune maison d'édition avec laquelle j'ai eu la chance de collaborer, qui a décidé de lancer ce projet fou de travailler avec des artisans d'art en Normandie et relancer une filière bois qui réussisse à sortir des tables belles, faite par des designers, des gens donc qui viennent de l'industrie, à un prix hyper compétitif et qui revient moins cher que l'enseigne dont vous parliez, une table en chaîne massive.
Et qui est durable.
Et qui est durable, une table en chaîne massive d'un mètre 90 à 600 euros. Donc il n'y a pas d'incompatibilité, les métiers d'art, c'est absolument pas élitiste.
Et qui est durable quand je fais une
bibliothèque en métal, c'est sûr que ça doit être.
C'est pour 150 ans.
Assez. Hein. Ça a mis du temps à être fait et c'est fait pour durer.
Voilà, il y a 5 générations qui pourront l'utiliser.
C'est ce qui fait toute la différence d'ailleurs entre les métiers d'art et ces objets donc issus de l'industrie, c'est cette capacité que l'on a à les faire restaurer, à les faire durer. Pourquoi on a pris ces objets dans le musée? Cet étui à mantille dont vous parliez, il est du 18e siècle, il est en cuir, il pourrait être extrêmement fragile. Au bout de 200-300 ans, il est encore là parce que la spécificité des objets d'art, c'est d'être pérenne. Donc il y a cette notion de durabilité qui n'inclut pas qu'une dimension écologique de production, mais de pouvoir réparer un objet, de pouvoir le faire vivre et de le transmettre comme on transmet un savoir-faire.
Nicolas Rizzo, est-ce qu'il n'y a pas justement un problème de société où aujourd'hui on est dans la consommation un peu à outrance dans certains cas, où on veut obtenir des choses très vite, donc à très bas coût, et dans aussi le jetable pour une part.
C'est pour ça qu'aujourd'hui...
Donc il y a une opposition quand même beaucoup entre cet état d'esprit-là et celui dont vous parlez, qui est très séduisant par ailleurs. Ce n'est pas un jugement de valeur, j'essaie de voir comment il peut s'introduire dans une société qui existe, celle de la réalité.
Mais il y a un engouement quand même qu'on constate de plus en plus, qui est incarné en plus par la nouvelle génération des entrepreneurs d'un néo-artisanat, d'une nouvelle communauté... de la création, qui incarne ça, la génération entre Y et Z, hein, ceux qui sont nés avec les nouvelles technologies, le développement durable. Ils ont intégré ces notions par eux-mêmes d'entrée de jeu. Donc, et ils créent ils ont un mode de fabrication, de fonctionnement. Ils ont ce germe-là. Et du coup, je veux dire, il y a une aspiration profonde maintenant pour des objets différents, pour une consommation qui n'est pas qu'une consommation d'ailleurs, avec un acte éthique d'achat. Donc, c'est alors là, vous me tournez la perche pour parler du Slow Made, qui est un mouvement qu'on a. Donc, je suis le cofondateur avec Marc Bayard du Mobilier National. Donc, l'INMA et le Mobilier National ont permis l'émergence de ce mouvement qui veut revaloriser justement la notion et repositiver le temps dans la fabrication et dans la consommation. Le temps, c'est pas le temps lent nécessairement. On peut être lent. Parfois, il faut l'être. Parfois, il faut être rapide. Il faut utiliser le bon outil au bon moment. Le crayon, le rabot, et puis aussi l'imprimante 3D. Si la technologie doit être au service du métier, bref, tout ça pour créer des objets qui vont répondre à une nouvelle aspiration, des objets beaux, bien faits, durables, avec un prix qui est justifié, mais parce qu'on l'a expliqué.
Ça ne veut pas dire forcément abordable.
Pas soit en cher. Ce qui est cher, c'est quand la qualité n'est pas au rendez-vous, la qualité ne correspond pas à un prix, la qualité intrinsèque au prix. Parce qu'il y a des effets de marketing intensifs. Là, le Slow Made, finalement, on a créé quasiment une stratégie de branding et de marketing open source, gratuite, dont peuvent s'emparer, qui doit servir aux artisans d'art, mais pas que, à tous ceux qui maîtrisent, qui travaillent des savoir-faire, donc métiers d'art, mode, design, l'art de vivre, le parfum. Ça va assez loin. Donc, pour un projet de société, qui veut consommer différemment, quoi.
Éric Sébastien Fort-Lagorce, vous vouliez.
Oui, je voulais intervenir parce que je rebondis sur ce que dit. Je laisserai après peut-être la parole à Steven. Oui, il aura certainement son mot à dire, mais sur ce que dit Nicolas, est-ce que vous suggériez comme question mutation? Pourquoi aussi ce titre? Peut-être une lubie de notre part, mais tout simplement parce que les artisans d'art, les métiers d'art ont toujours accompagné les mouvements sociaux et les changements profonds de nos sociétés. Et le plus flagrant, c'est quand même la Révolution française, qui est notamment la prise de la Bastille, qui est partie d'un atelier d'art, la manufacture Réveillon, dont on expose un papier peint dans l'exposition. Donc c'est une petite anecdote, mais vraiment pour montrer que les métiers d'art, de manière générale, ont toujours accompagné ces mouvements sociaux, ces changements de société. Et je pense qu'on est en train d'en vivre un très fort et qui justifie le retour des métiers d'art sur la scène de la création contemporaine.
Steven Richard, comment vous voyez-vous votre avenir ?
Alors, il me semble que l'avenir, il se pense déjà hier. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, les artisans d'art ont intégré complètement la mondialisation, l'export. se rendre compte aussi que l'influence française est forte, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'entreprises qui copient, tentent de copier un savoir-faire français classique. Penser qu'on sera à l'abri tout le temps de copies estimables et de niveau suffisant pour pouvoir être en confrontation avec des coûts du travail ou des coûts de production moindres, c'est se voiler la face. Et donc, je pense que il est indispensable d'inventer des nouveaux savoir-faire, des nouveaux métiers d'art aujourd'hui pour pouvoir avoir ces deux coups d'avance que aujourd'hui le tissu d'artisans d'art français peut proposer.
Est-ce qu'il vous manque quelque chose pour atteindre cette situation, enfin, ou conforter cette situation dont vous parlez aujourd'hui ?
Il me semble qu'il y a un point faible dans le modèle français, c'est la formation. C'est-à-dire qu'on est en train de... l'ambition des artisans d'art français, des artisans créateurs, elle est toujours très très forte. Je vois par rapport aux autres pays européens avec lesquels je suis en compétition, hein, certaines fois, sur souvent les Italiens, on produit des choses, on n'a pas à rougir, on produit des choses de très très grande qualité. Mais pour en arriver là, je vous assure que c'est énormément d'investissements, tant financiers, et derrière, on a des partenaires institutionnels qui sont censés porter des formations de haut niveau. Il me semble là qu'il y a une petite défaillance.
Vous avez combien
combien
d'employés ?
Là, mon équipe, à l'atelier, on est 6 en me comptant. Et pour moi, il y a un gap entre le niveau des jeunes compagnons qui sortent tout juste de formation et le niveau auquel je pourrais envisager les embaucher et les intégrer. C'est-à-dire que
ils sont pas au niveau que vous attendez.
C'est-à-dire que c'est indispensable. Hein. Il faut pas. On parle de création, mais le socle, c'est quand même une maîtrise technique. Et là, on est. On demande beaucoup aux entreprises de plus en plus hein, cet investissement en formation. Bien sûr, moi, j'essaye de jouer le jeu, mais c'est. L'écart est trop important pour envisager sur une année pouvoir emmener quelqu'un au niveau. Et là, je prends un exemple. Hein. Si vous avez votre bac, le CAP. Puisque c'est le seul examen où il y en a un autre, mais je dirais le commun en ferronnerie d'art, on vous dispense d'une année de formation. C'est-à-dire, il y a quelque chose de
oui, c'est un sujet en part entière, ouais. C'est un vaste, c'est un énorme sujet. La formation, c'est la pierre angulaire finalement, formation, économie, innovation, ouais, c'est une trinité. Mais la formation, c'est un vaste chantier, on est en train de conduire une réforme.
C'est très lié à l'avenir.
L'INMA, bien sûr, c'est la base. Donc l'INMA a conduit, a impulsé cette rénovation de la formation avec l'idée de créer une filière vraiment homogène, plus qualitative et qui aille jusqu'au niveau 1, jusqu'au niveau de recherche. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de master et de recherche dans les métiers d'art en France. Il y a des pays qui le font et finalement là, on n'est pas en avance, alors qu'on a effectivement une culture des savoir-faire de très haute facture, le luxe, mais effectivement, on n'est pas à l'abri d'une déperdition, d'une dégénérescence même des savoir-faire. Donc, il y a un projet. Alors, ça ne se fait pas comme ça, en claquant des doigts. On y travaille avec l'éducation nationale, mais enfin, plusieurs ministères, le ministère de la Culture. Il y a beaucoup d'acteurs autour de la table, mais effectivement, ça mériterait effectivement une émission à part entière.
Oui. Éric-Sébastien Faure-Lagorce, la même question sur le manque. Est-ce que vous avez, après cette expérience de l'exposition Mutation, une émergence d'une attente pour l'avenir ?
De manière générale, je pense, et le fruit de, en tout cas, le résultat de cette exposition qu'on a pu encore constater ce matin avec l'Institut national des métiers d'art, je crois que ça serait de trouver les moyens de permettre à tous réunis autour de la table d'avoir cet esprit d'ouverture, de participation et de collaboration. En imaginant cette exposition, on ne se doutait pas une minute qu'on allait constituer un groupe de 20 personnes qui allaient vouloir continuer à travailler ensemble, à créer des passerelles, ou un verrier va vouloir...
Les 20 créateurs
de l'exposition continuent encore et pour la plupart de travailler ensemble avec des passerelles qui me dépassent aujourd'hui largement, puisque certains membres d'un collectif sont allés voir rencontrer d'autres collectifs pour qu'un verrier travaille avec un orfèvre, et ainsi de suite. Et ce qu'ont pu amener aussi les artistes, c'est cette démarche scientifique, on parle de science dans votre émission, c'est cette démarche scientifique, parce que ce dont on ne se rend pas compte aujourd'hui, c'est que souvent un artiste a besoin de cette recherche scientifique. Je pense encore une fois à cet objet, ce projet de papier peint, où l'artiste Léa Barbazange va très régulièrement au Muséum d'Histoire Naturelle consulter des scientifiques pour pouvoir créer ses œuvres. Et je pense que ce dont on a besoin vraiment, c'est encore de décloisonner entre cette notion d'art, cette notion de métier et de science, en ramenant peut-être même des pôles d'excellence à travailler avec les artisans d'art.
Stéphane Richard, sur cette collaboration, vous ne nous avez pas parlé de collaboration avec d'autres artisans comme vous, mais dans d'autres domaines. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît souhaitable et tentant pour l'avenir ?
Moi, je dirais que c'est au quotidien. Hein. Les passerelles entre... On a tous notre réseau, ici un gaineur cuir, là notre ébéniste. J'ai besoin de faire un escalier avec des marches en bois. J'ai forcément mon menuisier qui est disponible. Marqueterie de paille, etc., etc. Ça, c'est des...
C'est tellement évident que vous ne l'avez pas souligné, mais ça fait partie du quotidien.
C'est évident.
Il constitue malgré tout une exception.
Ce qui
dans
est,
votre domaine.
Naturellement, ça se fait assez facilement, je dirais. Parce qu'on se côtoie dans l'architecture intérieure.
Mais parce que vous avez besoin dès le départ.
Voilà,
qu'il y a plusieurs matériaux.
Sur des chantiers. Hein, ça, ces rencontres, elles se font, sur chaque chantier, c'est des nouvelles rencontres.
Et pour l'innovation...
En revanche, là, il était question de science et de faire rentrer, mettre en connexion d'ouverture, artisanat, science et recherche et art. Vous regardez comment les écoles sont constituées, comment elles sont construites. Je vous ai expliqué la manière dont moi j'avais intégré la manière dont il fallait aborder l'innovation technique. Ça s'est fait à un café, dans des repas. Ça s'est fait de manière complètement informelle. Si les écoles sont séparées, les Beaux-Arts, ils sont à des nombreuses stations de métro, d'écoles qui pourraient scientifiques, qui alors qu'ils devraient être aux mêmes tables. Ça a pu évoluer, mais
et proche de la matière aussi, oui.
Proche de la matière, exactement. Donc c'est dans ces moments qu'on peut échanger énormément.
Voilà, alors sur ces mots, le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Éric Sébastien Fort-Lagorce, Stéphane Richard et Nicolas Rizot d'y avoir participé. Sur notre site, vous trouverez des liens avec les journées européennes des métiers d'art, mais surtout avec l'expo. J'ai dit surtout parce que ces journées sont terminées, et surtout avec l'exposition Mutation qui, comme je disais, continue, elle, et que vous pouvez visiter au Musée des Arts Décoratifs jusqu'au 5 juillet 2015. Donc vous avez encore quelques temps pour vous y rendre. Sur le site de Sciences Publiques, vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours, la podcaster pendant 1 an, et bien entendu nous faire part de vos réactions et commentaires.